Eh bien, bonjour camarades, merci d'être venu pour ce débat organisé par, dans le cycle organisé par le comité exécutif du NPA. Donc aujourd'hui on va parler grèves, blocages, sabotages, nouvelles méthodes de lutte avec un point d'interrogation. Pour parler et pour animer ce débat, nous avons quatre camarades. Tout d'abord, camarade Jean-Yves, qui est membre du secrétariat fédéral de l'UCL au titre de la commission entreprise. Ensuite, nous aurons camarade Sandra, qui est membre de la direction nationale du NPA et qui est syndicaliste CGT, enseignante dans l'éducation nationale. Puis Manon, membre de la direction nationale du NPA, syndicaliste CGT à la BNF. Et enfin, Baptiste, camarade Baptiste, agriculteur, et qui est au soulèvement de la terre. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire l'ensemble des introductions, ensuite une pause de 10 minutes, mais 10 minutes, pas plus, pour que tout le monde puisse réfléchir à ce qui a été dit, boire un coup, et ensuite on organisera le débat. Alors, le débat sera des interventions de 4 minutes, évidemment, et avec le système de la double liste, qui priorisera les camarades femmes. Et enfin, on aura une série de conclusions des camarades pour 5 minutes chacun et chacune. Hein ? Bon, d'accord. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Yves.
Non, il faut appuyer sur un bouton. Oh là là là. Bien, merci aux camarades du NPA pour cette invitation. Et du coup, dans cette salle, j'ai pas pu résister à commencer par une anecdote qui sera une forme d'hommage aux camarades Aguirre pour ceux qui l'ont connu. C'était un peu avant l'extinction des dinosaures. J'étais un jeune ouvrier à l'époque dans les industries graphiques et nous livrions un combat pour... Il y a du vent. Et nous livrions un combat pour l'application d'une convention collective. Pour les connaisseurs, et je sais qu'il y en a dans la salle, son décret d'extension avait été cassé par l'intervention de FO, qui, ayant été exclu des négociations, trouvait qu'elle était trop bonne pour les ouvriers. Donc nous faisions le tour des entreprises où elle n'était pas appliquée pour convaincre les salariés de se syndiquer, de se mobiliser et d'en obtenir les avantages. Mais l'affaire progressait peu. Je m'étais décidé à frapper un grand coup en mettant le feu à une de ces entreprises, par ailleurs lié au patronat de l'extrême droite, Valeurs Actuelles déjà à l'époque. J'étais un jeune militant aussi à la LCR, et du coup, je me sentais le besoin d'une validation, d'un avis. Est-ce que j'avais vraiment le droit de mettre le feu à une imprimerie? Et Aguirre m'a répondu, en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose dans l'absolu. Quelques jours plus tard, nous avions nos premiers syndiqués dans cette même entreprise, et j'ai donc évidemment abandonné le projet de la brûler, avec une espèce de leçon de choses qui m'est restée, et en même temps, comme on a perdu cette bataille sur la convention collective, je me demande si on n'aurait pas mieux fait quand même de la brûler. Cela dit, je suis obligé peut-être de... Parce que, évidemment, vous connaissez tous l'UCL, mais... Peut-être deux précisions quand même, trois d'ailleurs en fait, puisque notre vision du communisme libertaire repose sur trois sources. Et c'est important pour le débat, sinon je ne me permettrai pas naturellement. La première source, parce qu'on a en fait autant de tendances chez les anarchistes que chez les trotskistes, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Mais donc, du milieu du 19e siècle... jusqu'à la guerre de 14, qui est quand même la grande barrière qu'on aura beaucoup de mal à franchir, historiquement, les différents courants se définissent, se combattent, se déclarent les uns les autres, les individualistes, les terroristes, les culturels, les véganes, déjà à l'époque, les naturistes, déjà à l'époque, les vies en communauté, déjà à l'époque. Et puis, au milieu de tout ça, de ce bouillonnement, des gens qui vont se réclamer d'un anarchisme social, d'un anarcho-communisme, avec les débats dans l'AIT avec Marx, dont on va adopter en gros, nous en tant que courant historique de l'anarchisme, l'économie politique, la critique de l'économie politique et le matérialisme historique, mais par contre, évidemment, que nous allons rejeter, c'est le débat qui reste entre nous d'ailleurs, d'actualité, sa vision sur la question de l'État. Est-ce qu'on s'en empare pour le mettre au service des travailleurs ou est-ce qu'on le détruit parce qu'un État, de toute façon, sera toujours oppresseur ? Le débat n'est pas fini. La deuxième source de notre courant, c'est le plateformisme, qui est surtout présent en France, en fait, en vrai, parce que Macno, quand il est chassé d'Ukraine par l'échec de la Révolution et la répression féroce que lui mène l'armée rouge, donc Macno arrive en France avec Voline et ils écrivent avec les quelques anarchistes rescapés du massacre organisé par Lénine et Trotsky, ils écrivent donc une plateforme où ils font le bilan de leur échec. Comment les bolcheviks, qui étaient guère plus nombreux que nous, en fait, au début de 17, comment ils ont gagné, comment ils nous ont écrasés comme ça, comment ça a été possible. Et donc, ils écrivent un document qui s'appelle donc, une plateforme, où ils réclament une organisation, certes anarchiste, mais avec une forte cohésion politique et une discipline dans l'action, sans laquelle on se fera encore avoir le prochain coup. Et je pense qu'ils ont raison. Le troisième source, qui est beaucoup plus récente, c'est Daniel Guérin en tant qu'historien et homme et philosophe politique. Enfin bref, vous connaissez tous Daniel Guérin naturellement. Et non pas sur l'idée d'une éventuelle synthèse entre le marxisme et les pensées libertaires, mais plutôt d'une confrontation féconde entre le meilleur des marxismes et le meilleur des libertaires. Voilà. Donc ça nous fait trois boussoles, autant dire que ça nous fait ni un programme, ni un dogme, même pas un livre de recettes, juste quelques boussoles avec lesquelles on essaye de se débrouiller, et pour lesquelles d'ailleurs on a du mal à fixer des cahiers de formation pour nos jeunes adhérents, parce que c'est, voilà, il n'y a pas de truc tout machin. Alors, sur le sujet précis, j'ai encore le temps.
10 minutes.
Même pas. Évidemment, de notre point de vue, même si on n'est pas des syndicalistes révolutionnaires purs au sens où on pense qu'il y a la nécessité d'une organisation politique quand même, voilà, pour faire avancer les idées, on va le dire comme ça, évidemment qu'on puise chez les syndicalistes révolutionnaires du tournant des années 1900, Pelloutier, Pouget, voilà, ce qui va nous inspirer sur le syndicalisme d'action directe, le sabotage, la grève générale, expropriatrice, voilà. Et tout le catalogue, je ne vous le fais pas parce que j'imagine que vous avez déjà lu des choses sur ce sujet. Et pour le coup, tu vas me dire que je n'ai pas le temps de faire un historique précis du syndicalisme révolutionnaire. Donc, de notre point de vue, toute méthode est possible, voilà, mais à certaines conditions. Dans nos tracts, là, pour la réforme des retraites, on a appelé sans hésitation, comme on l'avait d'ailleurs fait à d'autres occasions, à la nécessité de recourir au sabotage quand on n'est pas capable de mettre son usine en grève. Voilà. On peut quand même arrêter de la production. Il suffit de perdre une clé, débrancher un fil. Enfin, voilà, tous ceux qui ont travaillé quelque part savent comment faire pour que le travail s'arrête. Donc on n'a aucun problème à appeler à ce genre de choses en fonction, par contre, évidemment, du rapport de force, qui est la première de nos boussoles dans cette affaire. L'analyse du rapport de force entre notre camp, évidemment, et le camp d'en face, c'est-à-dire, et là, c'est politique, donc c'est jamais pareil, d'une fois sur l'autre, d'un sujet sur l'autre, d'une époque à l'autre, d'une grève à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une profession à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais évidemment, comment on articule minorité agissante, action minoritaire, y compris clandestine, et son degré d'acceptation par les masses, ou pas, et les actions de masse, qui restent quand même, évidemment, comme la grève générale expropriatrice, l'acmé de nos désirs d'action directe. Et puis, dans le rapport de force, évidemment, les forces du camp d'en face, les capitalistes, avec leurs propres contradictions, parce que heureusement ils en ont aussi, et l'État à leur service, mais les contradictions qui existent aussi, parfois, souvent même, au sein des services même de l'État. Donc c'est tout ça, pour nous, qu'il faut analyser pour savoir si, oui ou non, on grève, on sabote, voilà, à mauvaise paye, mauvais travail, juste, grève du zèle, enfin voilà, on se permet tout, à condition que dans le cadre de l'action qu'on mène, elle soit suffisamment comprise pour plutôt entraîner vers l'avant que d'être rejetée en arrière et condamnée par les gens qui nous entourent et qui participent du même combat. Clairement, et c'est ce qui va nous séparer d'un certain nombre de courants, en particulier des autonomes aujourd'hui, c'est d'éviter un aventurisme voué à l'échec, un échec étant par ailleurs démoralisateur, de surcroît, renforçant l'État dans son rôle de protection de l'ordre public, etc., etc., et donc aggravant les possibilités de répression. Ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait monter, nous, la barre un peu plus haut dans nos actions, si on gagne, ça passe, et ça gagne, pour longtemps. Si ça passe pas, non seulement on descend d'un point de vue social, des acquis, etc., mais en plus, on a donné justification à l'État pour aggraver sa légitimité à nous réprimer. Et donc, il nous semble important de ne pas se lancer dans des aventures dont on ne mesure pas le résultat, sachant qu'évidemment, la révolution n'étant pas une science exacte, pas plus que les grèves ou le reste, et ben parfois on va aller juste un petit peu trop loin, et puis on le prendra sur les doigts, et voilà. 5 minutes, ben c'est parfait. 5 minutes pour la deuxième boussole. La deuxième boussole, c'est quelque chose qui n'est pas loin de l'éthique. Nous pensons que nos manières de lutter préfigure du communisme que nous voulons. Et que de ce point de vue, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je crois que c'est Trotsky, dans Leur morale et la nôtre, qui dit « Tous les moyens qui mènent au communisme sont de bons moyens ». Mais c'est peut-être Lénine, il y a sûrement un spécialiste qui va pouvoir me corriger si je me suis trompé. C'est Trotsky, hein ? Voilà. Il me semblait bien. Le problème, c'est à quel communisme on nous mène. Voilà. Parce que tous les moyens qui mènent au communisme sont de bons moyens, ça ne nous dit rien sur quel communisme. Un communisme étatique, autoritaire, bolchevique, pour le dire comme ça, ou un communisme fédéraliste, autogestionnaire. Voilà. Et dans ce cas-là, bien entendu, on ne mène pas les luttes, on n'élève pas le niveau de la même manière, on a un rapport aux masses qui n'est pas le même. Quand on se considère comme une avant-garde éclairée qui va diriger la révolution, s'emparer de l'État et le mettre au service du prolétariat, ou quand, plus modestement, moi j'aime bien cette formule-là, mais toute personnelle, mais je la répète partout, moi je me considère plutôt comme une organisation d'arrière-garde, avec l'idée de plutôt aider les masses en les poussant discrètement, légèrement, à aller un peu plus loin, tous ensemble, voilà, et non pas d'une avant-garde éclairée qui disposerait des clés du succès. Je vous remercie.
Merci camarade. Je passe la parole à Sandra sans plus tarder.
C'est bon, vous m'entendez ? Ok, bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec Jean-Yves sur l'extinction de l'État et son dépérissement, parce que là, tu triches un petit peu sur... voilà, mais je pense que aussi sur la question de l'avant-garde, on n'est plus tout à fait là. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Donc, atelier, grève, blocage, sabotage, quelle nouvelle méthode ? Moi, je dirais plutôt quelle méthode, en effet, pour nos luttes, parce que ce que tout ça est bien nouveau, ben voilà. Je crois qu'on est confronté, en effet, depuis plusieurs décennies à des mouvements... Après, ça peut se discuter hein, sur l'origine, la généalogie de tout ça. On peut partir des Bonnets Rouges, on peut partir de Notre-Dame-des-Landes. On peut aller sur les Nuits Debout, on peut aller sur les Gilets jaunes. À des mobilisations qui sont à la fois hétérogènes hein, sur le plan de leur composition sociale, mais aussi qui s'expriment en tout cas dans des cadres relativement moins traditionnels, en tout cas, ou du moins en marge de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier traditionnel. Et qui combine en effet différents modes de lutte et de mobilisation. J'ai un petit souci avec mon... Ah, désolée, à l'origine, je devais tirer le texte, mais du coup, c'est un petit peu chiant. Je vais y arriver sans problème. en tout cas, de manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que la grève générale, la grève, en fait, pour le dire simplement, elle occupe une place relativement moindre comme levier de mobilisation. En tout cas, elle coexiste avec d'autres formes de mobilisation. Et ça, ça s'est particulièrement révélé dans le cadre du dernier mouvement des retraites. Or, ce constat, il est à la fois lié à des facteurs structurels et il y a des facteurs qui sont plus conjoncturels, et voire des facteurs qui sont liés à la, même pas à la période, mais à la séquence là, qu'on a vécue. Donc des facteurs structurels qui sont liés à la mutation et en tout cas à la physionomie du prolétariat, hein, et notamment de son atomisation dans le cadre du... De l'atomisation de la production, l'atomisation de la du prolétariat, sa nouvelle physionomie dans le cadre de la restructuration d'un État néolibéral. On a depuis en fait, les années 70 une fin des grandes concentrations ouvrières, une précarisation grandissante, un chômage de masse dans les années 80-90, hein, si on veut situer, une féminisation croissante du salariat, une ubérisation aussi importante désormais. Et tout ça conduit à un bouleversement du modèle salarial. Il y a aussi d'autres éléments, hein, le reflux du mouvement ouvrier. Hein, je crois qu'on n'est plus sur le modèle du mouvement ouvrier du 19e siècle. En fait, on est entre les deux, on est dans sa recomposition. Et de fait, de ces organisations, avec la crise du syndicalisme, et on peut observer hein, depuis les 45, il y avait en gros 30% de syndiqués. Aujourd'hui, on stagne dans moins de 10% de syndicalisation depuis les années 90. Et en effet, le nombre de jours de grève a suivi la même dynamique négative, avec un mouvement ouvrier en crise, des équipes militantes relativement affaiblies et désorganisées, voire faibles, et ça en dehors des aspects des stratégies des organisations syndicales, avec des zones en friche, très clairement. Donc des difficultés à syndiquer des personnes précaires pour des raisons à la fois matérielles, hein, d'instabilité et politiques, parce que la précarité fragilise plus fortement les salariés vis-à-vis de la répression patronale. Mais aussi parce que ces mutations du salarié ont été très peu prises en compte par le syndicalisme lui-même. Et on peut rajouter d'ailleurs que ce syndicalisme, c'est en fait, même si beaucoup de choses avancent sur la question, a une difficulté à appréhender aussi les questions d'un syndicalisme basé sur l'extractivisme et le productivisme, à aborder les nouvelles questions écologiques. Il faut aussi prendre en considération des éléments conjoncturels dans cet reflux, en fait, pour revenir sur de la grève, en tout cas de la pratique de la grève. Il y a une période plus récente, on peut dire les défaites successives, loi travail, les défaites sur les retraites, donc le reflux en fait de l'action collective et en fait le reflux de la pratique de la grève et l'idée que ça peut fonctionner comme moyen de gagner dans une situation largement aggravée pour parler vraiment d'une période plus récente, c'est-à-dire du poids de l'inflation, même si cela explique pas tout évidemment. Alors l'exemple le plus flagrant de cette d'un mouvement en fait qui a un peu signifié en fait ce contournement de la grève, c'est encore l'exemple des Gilets jaunes. Significatif d'une mobilisation longue, radicale, qui contourne la grève, en effet, mais qui a symbolisé, en fait, de manière assez importante, la désaffiliation d'une partie croissante de notre classe, un salariat pauvre, précarisé, ubérisé, avec le vieux mouvement ouvrier, soit parce que celui-ci est largement perçu comme institutionnalisé, soit parce que celui-ci est largement organisé sur le modèle d'un prolétariat ancien. Pour autant, la grève générale, insurrectionnelle, reste pour nous un objectif stratégique essentiel. Pour mettre à l'arrêt la production, pour prendre le contrôle de nos outils de travail, pour avoir du temps, pour agir collectivement, contre l'aliénation aussi, et décider ensemble de nos revendications, de la mobilisation. Bref, la grève pour nous, c'est à la fois un outil et de lutte et une perspective stratégique. C'est aussi là où se joue, en fait, au bout du bout, l'émergence du double pouvoir, l'expropriation des capitalistes. Et en fait, la grève, elle occupe quand même un rôle central comme étape nécessaire de l'émancipation politique et la désaliénation ouvrière effective, en fait, par la pratique même de la grève. Concrètement, la difficulté de faire grève, c'est pas une question seulement théorique, parce qu'elle a été constatée dans le mouvement des retraites, parce que ça posait un certain nombre de difficultés, notamment pour ce qui concerne l'auto-organisation, avec la difficulté très concrète de se réunir en AG, de constituer des jonctions de revendication. Et pour faire vite, surtout l'incapacité de pouvoir faire émerger en fait une direction alternative au mouvement, indépendamment encore des logiques de l'intersyndicale. Pour autant, si demain il y avait grève générale, ou il y avait grève de masse, je remonte le truc, c'est chiant. Ça pourrait pas englober l'ensemble des espaces de mobilisation qui s'expriment. Car il n'en reste pas moins qu'il y a toute une série de mobilisations et de champs d'intervention, notamment dans le cadre des oppressions, notamment dans le cadre des questions écologiques et de l'écologie radicale, qui échappent aussi à ce logiciel. Et en fait, en effet, les éléments de la radicalité et de la combativité n'ont pas disparu. Hein, ces dernières années, on a vu émerger des nouvelles générations militantes dans la jeunesse, les quartiers populaires, qui se politisent contre les violences d'État, qui se politisent contre le racisme, les violences policières, les violences sexistes, les violences sexuelles, les lois liberticides, le climat, les projets inutiles et destructeurs. Mais ces différentes mobilisations, elles se dotent de différents modes d'action, en fait. Et elles se situent le plus souvent en dehors de l'appareil de production et en grande partie à l'extérieur du mouvement ouvrier. L'exemple des mobilisations autour des GPI, hein, des grands projets inutiles imposés, les mobilisations sur l'eau à Sainte-Sonine, les questions d'appropriation, en effet, de la terre, etc., vont générer d'autres formes d'action sur d'autres formes de terrain qui laissent une place croissante, en fait, à des actions de blocage des flux, à l'occupation de lieux, par exemple, comme la ZAD, comme les occupations de places, par exemple. Alors ces mouvements-là, il ne faut pas les opposer évidemment à la question de la grève et à sa place stratégique dans un ensemble, parce que c'est aussi des mobilisations qui ont un certain nombre de ressorts, en fait, et qui suscitent un certain nombre de questions. Ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, l'occupation de l'espace public, occupation de place, hein, ça a un peu pris sa forme en France avec les nuits debout, les blocages à travers les différentes moutures des « on bloque tout », etc., ils peuvent être largement polarisés par des mouvements radicaux, des mouvements autonomes, etc. Mais c'est aussi une frange de notre camp social qui, de par sa situation de précarisation, de par son atomisation, ne se met pas en grève, ne peut se mettre en grève pour différentes raisons, pour des questions qui peuvent être des questions de fric, pour des questions qui peuvent être des questions de répression, mais trouve du grain à moudre dans une série d'actions qui peuvent aller à de l'action symbolique, à des formes radicales mais significatives. On peut penser ce qu'on veut de l'efficience de tout ça, feux de poubelle, dans les manifs nocturnes qui étaient quand même des actions un petit peu massives malgré tout. Et voilà, c'est super chiant. Non mais c'est chiant parce que je remonte mon truc et j'ai pas ma souris. Ouais. Désolée, hein, c'est d'habitude, c'est pas comme ça, mais pas grave. Voilà. C'est chiant. Mais ça va se passer. Voilà. Voilà. Des actions, en effet, plus symboliques, etc. Donc, elles ne sont pas en contradiction quand elles ne sont pas, en fait, substitutionnistes, puisque notre objectif est de toute façon de bloquer l'économie et de bloquer les flux, donc ça, pour nous, ça ne rentre pas en contradiction. Il y a aussi, par exemple, les constitutions de ZAD et la lutte exemplaire de Notre-Dame-des-Landes, je pense que le camarade en parlera de manière plus détaillée que moi, qui montrent, en fait, à l'instar, en effet, de ce qu'on peut retrouver, en fait, dans une AG, par exemple, qui a fait défaut en effet dans le mouvement, ça veut dire le fait de ne pas se réunir pour pouvoir élaborer. Mais par exemple, les ZAD, c'est un vrai espace d'élaboration, de construction majeure par l'occupation, parce que c'est aussi un espace de production capitaliste. Par exemple, si on prend le cas de Notre-Dame-des-Landes, on prend le cas d'autres occupations de ZAD, la terre est bien l'objet de la spéculation et c'est bien un espace de propriété du capital, quand bien même ça ne se situe pas dans l'entreprise. C'est aussi des espaces de production de tactiques, de stratégies, mais aussi des espaces de convergence. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui peut avoir fait défaut dans le mouvement précédent, mais qui existe aussi par ailleurs dans des formes de lutte et de mobilisation qui ne sont pas traditionnelles. Mais c'est aussi une expérience de l'autogestion. C'est aussi une expérience de l'autogestion des mouvements à tous les niveaux. Alors ça aussi, ces mouvements, est-ce qu'ils sont nouveaux en tout cas, ils prennent en tout cas une place assez importante Ça questionne aussi nos logiques traditionnelles, et en grande partie dépassées, je dirais, sur le secteur clé, le secteur qui va se mettre en lutte. On attend le secteur de l'énergie, le secteur des transports, etc. Et je dirais, au-delà de ça, ça élargit, en fait, notre acception de ce qu'est le sujet révolutionnaire aujourd'hui, qui était largement calqué, en effet, sur une physionomie du prolétariat qui, aujourd'hui, a une forme assez différente, puisqu'en effet, féminisation, travailleurs immigrés, ubérisation, etc. Et du coup, en fait, l'émergence en fait, de mobilisation peut éventuellement émerger un peu d'un peu partout. Il y a aussi le caractère politique de ces mobilisations. Donc c'est des mobilisations qui sont des leviers de l'anticapitalisme, parce qu'elles débouchent le plus souvent sur une contestation globale des choix productivistes, par exemple quand c'est des mouvements d'écologie radicale et capitalistes. Et aussi des prégnances très importantes des questions démocratiques. Et tout ça, pour nous, la question de l'imbrication en fait, des questions de la vision un petit peu de la grève économique, et en fait lié à ce qu'on va dire l'action politique, pour reprendre un petit peu Rosa Luxembourg qui a été citée par une camarade hier, c'est vraiment pas de la dissociation des deux. Et là, en fait, on voit bien d'ailleurs dans ce mouvement des retraites que la répression d'État de Darmanin sur Sainte-Soline, elle a en fait finalement mis en fait dans le même pot commun cette séquence politique, et c'est elle qui a fait en fait ce lien. Parce qu'en fait les questions dites sociales, les questions de revendication ouvrière, elles ont maturé sur des questions politiques, et la répression a été un petit peu le ferment, la cohésion de tout ça, et ça c'est des éléments assez importants qui sont à mon avis un des ressorts de ces mouvements, notamment en effet les questions démocratiques. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est pas tant d'opposer les moyens de lutte ou les terrains, mais en fait de les combiner parce qu'ils sont relativement complémentaires, à condition en effet, et là je rejoins ce que disait le camarade, c'est-à-dire que ce ne soient pas des luttes substitutionnistes, voilà, et qu'en effet elles soient portées par elles soient réellement un ancrage. Mais je dirais que la situation, c'est plutôt de trouver des points de convergence à la fois sur l'adhésion, en effet, à ces modes d'action, mais aussi des points de convergence qui relèvent de quelles revendications on y défend et comment on a une convergence sur le fond, en fait.
Ok, merci Sandra. Sans plus tarder, Manon.
Et du coup, pour continuer là où Sandra s'est arrêtée, l'idée, c'est de reprendre à travers aussi l'exemple de ce qu'on a vécu sur le mouvement contre la réforme des retraites et un peu toute la dernière séquence, de voir aussi en quoi ce mouvement, y compris dans les faiblesses et les difficultés qui ont été pointées, il permet encore aujourd'hui de trouver des points d'appui qui nous permettent sinon de répondre tout de suite aux questions de comment construire la suite, au moins de chercher des pistes ensemble. Sur malgré tout des éléments importants que je retiens de ce mouvement, commencer sur quelque chose de peut-être évident, mais notamment sa massivité. Alors après, évidemment, ça dépend dans quel temps long on se pose, mais de se dire par exemple que toute une génération de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs, jeunes au sens large du terme, parce qu'on peut aller au moins jusqu'à la trentaine, en fait, n'a pas connu de mouvement aussi massif. Les manifestations étaient énormes, et par ailleurs, une autre particularité qui est liée, mais qui est pour le coup moi aussi une nouveauté, disons, à l'échelle de ma vie militante, qui est aussi la multiplicité des mobilisations et des manifestations qui se sont créées, mises en œuvre dans le mouvement. Hein. Chaque semaine, ce qui était impressionnant, c'était à la fois les chiffres massifs des manifestations, mais par ailleurs de voir l'ensemble des villes, des toutes petites villes, où des nouvelles manifestations avaient lieu, où des nouvelles mobilisations avaient lieu. Moi, l'exemple que je prends souvent, parce que ça me fait toujours beaucoup rire, mais c'est pendant des semaines, des mois, il y a eu plus de 300 personnes sur l'île de Groix qui sortaient à toutes les manifestations. Et d'un certain point de vue, même ces chiffres étaient plus impressionnants en termes de proportion dans les villes petites ou moyennes que dans les grandes villes. Donc ça, c'est un élément qui pose aussi la question de la reterritorialisation, de la localisation de lutte qui s'organise à une échelle plus locale. Et ça, ça a eu un impact, ça continue d'en avoir, je pense aussi, je ne développe pas là-dessus, mais ça me paraissait important de le dire, avoir concrètement aussi un impact sur d'autres questions. C'est vrai sur les questions écologistes, évidemment, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur les questions LGBTI. À la suite de cette séquence sur les retraites qu'on a vécue, il y avait le mois des fiertés, et c'est la première fois depuis peut-être jamais, d'ailleurs, qu'il y a eu autant de marches des fiertés, y compris dans des toutes petites villes, y compris dans des coins où, en fait, il n'y en avait jamais eu. L'exemple qu'on prend aussi, c'est la Pride de Redon, par exemple. Mais en fait, il y en a eu dans tout un tas de coins où ça faisait bien 10 ans, 8 ans qu'il n'y avait pas de manifestation qui s'était organisée. Et ça, c'est aussi, à mon avis, un effet de ce qui s'est passé au moment de ces mobilisations. Également la question féministe, hein, qui a pris toute sa place dans toute cette séquence autour de l'enjeu pas petit de la question de l'articulation du 7 mars, du 8 mars, de la potentialité d'une grève qui continue, d'une grève reconductible et qui généralise. Et cette massivité, elle a permis à des nouvelles générations, donc je l'ai dit, de travailleuses, de travailleurs, de précaires, de jeunes, de faire l'expérience également du sentiment d'être majoritaire dans la société. Et ça, en fait, c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je suis, la dernière génération qui a participé au CPE, parce que j'étais très jeune. Mais en fait, depuis, nous n'avons plus jamais, collectivement, dans des luttes à l'échelle nationale, eu ce sentiment-là. S'approcher aussi, quelque part, souvent, d'une forme de joie pure, comme disait Simone Veil, et de se rappeler qu'en fait, ça nous faisait plaisir de nous retrouver toutes les semaines, que, y compris, il y a des expériences, il y a des choses qui se jouent et qui sont, pour le coup, comme tu le disais, Sandra, de l'ordre du politique et de la prise de conscience, de la conscience d'intérêt commun et la conscience aussi de la légitimité de se battre pour ses intérêts communs. Bon, ce qu'on dirait de manière un peu barbare, de la conscience pour soi. Ça, c'est des éléments qu'on peut se dire parce que je les trouve importants. C'est aussi également un mouvement qui a montré une disponibilité très grande à d'autres formes de mobilisation et de radicalité. Évidemment, il y a eu la question des blocages. Alors, on peut dire qu'elle n'est pas nouvelle. Hein, ça se pose depuis des années. Malgré tout, c'est intéressant de regarder comment cette question des blocages... le blocage, c'est un outil. Après, c'est aussi ce que tu disais, Jean-Yves. La question, c'est comment on le fait, pourquoi on le fait, dans quel contexte. J'ai plusieurs exemples où, d'un côté, effectivement, c'est possible d'être substitutiste en se disant « Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas dans un secteur bloquant et puis je n'ai pas envie de me prendre la tête à discuter pendant des plombes avec les collègues pour être que deux en grève. » Et du coup, la solution, ça serait d'aller bloquer les choses comme des déchetteries, des raffineries, etc. Par contre, le blocage, et là je prends un exemple, alors on peut dire que c'est un petit exemple, mais je trouve que ça permet toujours aussi de réfléchir, de partir de son expérience. Moi je travaille à la BNF, donc dans la culture, au ministère de la Culture. À partir d'un moment où pour le coup la grève a été assez suivie, je sais que c'est une particularité, mais où pour le coup à un moment s'est posé la question de décider de bloquer, à la fois pour des raisons symboliques, mais aussi pour des raisons de comment on construit en étant la grève dans les autres établissements du ministère de la Culture. Donc s'est posé la question du blocage du musée du Louvre. Et le musée du Louvre, il a deux intérêts. Déjà, d'une, il bloque l'économie, pas au sens marxiste du terme, mais c'est 1 million d'euros de pertes sèches pour une journée de blocage du Louvre. Par ailleurs, l'idée était aussi de le faire en lien avec, en gros, ça a permis à les collègues du Louvre qui n'étaient pas en grève ce jour-là de prendre le temps de faire une AG, de discuter, de voilà. Donc il y a des exemples qui ne marchent pas, mais en tout cas, celui-ci, voilà. Sur la question des manifs sauvages, alors encore une fois, c'est à la fois pas une nouveauté, à la fois il y a une forme de manif sauvage un peu nouvelle, en tout cas je trouve, qui s'est développée, et pour le coup pas juste des manifs extrêmement minoritaires et pas juste des manifs qui sont organisés par en gros les partis organisés, alors autonomes, Black Bloc, etc., de ce type de stratégie. Dans les rues de Paris, pour le coup, pendant des jours, enfin des nuits et des nuits, c'est des milliers de jeunes, parfois même jusqu'à plus d'une dizaine de milliers de jeunes, en fait, qui manifestaient, qui refusaient de s'arrêter, et où se côtoyaient par ailleurs à la fois une forme de massivité, on se comprend, en tout cas plus large qu'avant, et de radicalité. La plupart des jeunes qu'on voyait, mais pas que des jeunes, hein, par ailleurs, moi, j'ai des collègues qui se baladaient là n'étaient pas des gens qui allaient allumer des feux de poubelle, mais qui par contre étaient tout à fait contents que d'autres gens allument des feux de poubelle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez marrant, mais par ailleurs de signifiant politiquement. Parce que sur la question de comment s'allie massivité, radicalité, comment se joue la question de la violence aujourd'hui, y compris de la violence à la fois de l'État, mais la violence envers l'État, cette séquence s'est jouée dans la situation notamment des mobilisations sur les questions écologistes de Sainte-Soline, de l'ensemble des mobilisations qui ont été en partie organisées avec les soulèvements de la terre, avec tout un tas d'autres, avec la Confédération paysanne, etc. Et ça, ça faisait écho. Ça faisait écho à deux titres, à titre politique, parce qu'à ce moment-là, en fait, s'est joué quelque chose de l'ordre, le combat des retraites. En fait, il a quelque chose à voir avec le combat pour le bien commun, pour l'eau, etc. Et le succès, y compris de ces mobilisations, il est probablement aussi à voir dans le succès qu'avaient les mobilisations sur les retraites, etc. En négatif sur la question de la répression, où s'est joué effectivement quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience à une échelle de masse que c'était pas juste de taper, blesser, pire encore, condamner tout un tas de personnes qui, y compris de manière très radicale, s'en prenaient par le sabotage ou par la confrontation violente avec les forces de police, et que ça avait exactement la même chose à voir avec la répression qui touchait le mouvement des retraites. Et le succès des rassemblements suite à Sainte-Soline et par ailleurs à la dissolution, à tout ce qui s'est joué après, à mon avis, est quelque chose d'important et d'intéressant à voir aussi d'un point de vue politique. La construction du rapport de force sur toutes ces questions séparément, elle passe par la compréhension et la nécessité de l'organisation de cette multiplicité des tactiques. Et c'est là qu'on y vient, de cette complémentarité des tactiques, des moyens de les mettre en œuvre entre massivité d'une part, radicalité d'autre part, mais peut-être pas d'une part ou d'autre part en fait. Comment on fait pour que la radicalité s'organise, nourrisse les mobilisations de masse et, j'ai envie de dire, vice-versa. J'ai déjà dépassé, c'est ça ? Parfait. Du coup, je dépasse de quoi ? 5 minutes max. L'une se renforce par l'autre. L'ambiance, le climat de zbeul général, que ça aille depuis les casseroles, summum de la radicalité pour le pouvoir, à des confrontations physiques avec la police, a servi la grève et vice-versa. On n'oppose pas massivité et radicalité, mais ce qu'on pense aussi, c'est que tout ne peut pas se faire tout le temps en même temps. Et c'est ça aussi, je pense, une des choses à discuter. En même temps, dans la vraie vie, on a vu pendant cette période, et notamment à Sainte-Soline, alors déjà des dizaines de milliers de personnes, il me semble. 30 000, c'est bon, c'est des dizaines de milliers. Avec, d'une part, des gens qui s'affrontent de manière déterminée et violente, avec les forces de police qui sont encore plus violentes en face, évidemment, et d'autre part, en fait, des milliers, des dizaines de milliers de personnes derrière qui applaudissent ça et qui sont là physiquement. Et qui sont là politiquement, qui soutiennent cette chose-là. Les deux choses cohabitaient. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est intéressant à discuter sur... voilà. Et au centre de toute cette question, et je termine là-dessus, se pose évidemment la question de la violence. Je l'ai déjà évoqué, mais je pense que le rapport à la violence, aujourd'hui, il faut en discuter entre organisations, entre mouvements, entre militants. Face à la violence d'État, la violence, elle est légitime. Ça, c'est la grande théorie. On est tous d'accord là-dessus. Mais dans la vraie vie, cette question, elle se pose à nous aujourd'hui, avec, à mon avis, une actualité importante. On est en train d'accumuler, à travers tout ce qu'on vient de vivre, des expériences qui posent des points d'appui pour l'avenir, pour justement réussir à nouer ces questions, d'une part, de mouvements radicaux et d'autre part, de mouvements de masse. On ne pense pas que, de notre côté, c'est uniquement par des actions qui visent à mettre à nu la violence de l'État, c'est-à-dire on y va à quelques-uns, on se tape, et là les gens ils se rendent compte que vraiment l'État est un groupe d'hommes en armes, quoi. Mais on pense qu'aujourd'hui, dans la période, et face à l'ampleur par ailleurs de la répression, un autoritarisme grandissant, la situation, l'arrivée de l'extrême droite, etc., il y a une discussion à avoir sur comment on essaye de créer une culture de la violence défensive, une culture de la contre-violence, peut-être même on pourrait dire, et comment on arrive, nous, à faire que les mobilisations adviennent, parce que techniquement, c'est comme ça que ça se pose aussi. Dernière chose du coup, c'était pas vraiment la dernière chose, j'avais menti, mais c'est un truc que j'ai appris chez les hommes. Je me suis jinxée moi-même, j'essaie de me concentrer. Donc comment on arrive à avancer ensemble, comment on arrive à se défendre à tous les niveaux de ce point de vue-là. Et dernière chose, en fait je l'avais déjà dite mais j'y reviens quand même parce que je trouve que c'est important, parce que de la même manière, pour paraphraser ce que tu dis, mais ça aussi c'est, les hommes ont le droit, de la même manière que la grève est un moyen d'expérimentation d'autres formes d'émancipation, ce moment où ça devient à la fois un outil et à la fois une perspective stratégique, et ben on pense qu'aujourd'hui se joue dans l'ensemble, dans la multiplicité des mobilisations, et notamment les mobilisations autour de Notre-Dame-des-Landes, les mobilisations écologistes, quelque chose de l'expérience aussi d'une autre démocratie, d'une autre manière de penser le monde, comme alors à notre tout petit niveau, et on peut pas vraiment s'appeler une mobilisation, on essaye de faire aussi dans le cadre des universités d'été du NPA.
Bon, du coup, je passe tout de suite la parole à Baptiste. Oui.
Allô. Bonjour à tous. Alors, il me semble qu'il y a des choses vraiment importantes qui viennent d'être dites là par Sandra et Manon, donc je vais essayer de ne pas trop radoter par-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été très bien dites et je pense qu'ils sont intéressantes pour nourrir et alimenter le débat. Moi, je voulais plutôt repartir, donc pas revenir effectivement sur un peu les liens qui se sont d'une manière ou d'une autre tissés entre les mobilisations écologistes et puis le mouvement des retraites, parce que je pense que l'essentiel a été dit, mais revenir un peu sur le rapport aux pratiques de lutte qu'on a développé dans le cadre des soulèvements de la Terre depuis le début. Et avant ça, de préciser quand même, même si c'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous, que le point de départ des soulèvements de la Terre, c'est pas d'essayer de construire une organisation ou un parti, mais c'est plutôt d'essayer de coordonner un ensemble de forces hétérogènes dans la perspective de devenir un mouvement un jour. Et cette composition de forces, elle rassemble à la fois des syndicalistes, à la fois des jeunes, des moins jeunes qui étaient investis dans le mouvement climat, des gens qui sont plutôt issus du milieu autonome, des gens qui sont actifs dans des luttes de territoire, donc une composition de forces assez hétérogène et qui chacun de son côté a une histoire et une culture politique en propre, quoi, et qui parfois sont assez différentes, et une expérience aussi. Donc ça c'est le point de départ, et à partir de là on s'est dit si on veut réussir à trouver une manière d'agir ensemble, ce qui était l'objectif principal, si on veut réussir à agir ensemble, il faut peut-être qu'on se départisse d'un rapport moral ou idéologique à la question des pratiques de lutte. Sans quoi on va probablement s'embrouiller très vite entre nous et tomber sur des points de dissension plutôt que sur des points d'accord, quoi. Donc ça veut dire quoi, se départir d'un rapport moral et idéologique aux pratiques de lutte ? Pour nous, c'est essayer de trouver une méthodologie pour penser et construire les actions ensemble. Et je voulais évoquer trois des aspects principaux qu'on a essayé de mettre en travail autour de cette méthodologie. Le premier, c'est celui de définir un objectif aux actions qu'on construit. Qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que construire un objectif avec quoi on le met en regard ? On le met en regard d'abord avec une réflexion sur l'état des forces en présence. C'est-à-dire quelles sont effectivement leur culture, leur imaginaire de lutte et comment ces imaginaires ils peuvent cohabiter. On la met en regard avec, quand on accompagne une lutte locale en particulier, comme celle contre les mégabassines en Deux-Sèvres, mais il y en a eu aussi beaucoup d'autres, quelle est la capacité de mobilisation de cette lutte et sur quel type de mobilisation on peut compter. On la met en regard également avec à quel stade de la réflexion stratégique cette lutte en est. Enfin, c'est-à-dire à quel moment de la lutte on est, à quel moment du rapport de force on est et qu'est-ce qu'on cherche à construire dans ce rapport de force comme type de conflictualité avec l'adversaire. Et enfin, toujours sur construire un objectif dans l'action, c'est où est-ce qu'on situe la victoire. Et alors là, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, entre la victoire totale contre le capitalisme et la défaite, il y a tout un tas de strass, tout un tas de paliers. Et la question, en réalité, se pose systématiquement de savoir si la victoire, on la situe dans telle action, à l'endroit où il y a un bout d'un projet contre lequel on lutte qui va être abandonné ou remis en question. Est-ce que la victoire, c'est d'arriver à faire parler plus de la lutte qu'on mène? Est-ce que la victoire, c'est d'arriver à sortir d'une action ensemble avec le sentiment qu'on a fait autre chose que juste une pure représentation symbolique, mais qu'on a impacté réellement l'objet de notre lutte? Donc voilà, ça c'est les différents éléments qu'on met en travail autour de la question de l'objectif de l'action. Le deuxième aspect, c'est relève plus de considérations tactiques. Donc c'est qu'est-ce qu'on met en place comme travail collectif pour faire une étude du terrain sur lequel l'action va avoir lieu, comment on analyse les différentes complicités locales sur le territoire sur lesquelles on peut s'appuyer. Ici, des gens qui ont des terrains pour accueillir un camp de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Là, des gens qui ont des moyens matériels pour faire encore en sorte que ce camp advienne. Ici, des gens qui ont des connaissances sur le chantier ou les personnes qui travaillent sur le chantier qui peuvent donner des informations. Voilà, toutes ces questions-là. Et voilà, ça c'est pour ce qui concerne un peu les considérations tactiques qui nous semblent importantes de mettre en travail dans le cadre de cette méthodologie, quoi. Et enfin, le troisième aspect, c'est la compréhension de l'adversaire. Donc c'est à la fois avoir une vue assez précise et détaillée sur le rapport qu'entretient une locale avec la préfecture, comment ça discute dans les événements passés, quel type de levier la préfecture utilise dans le rapport de force avec la lutte locale. C'est aussi comprendre la logique de maintien de l'ordre qui est à l'œuvre dans la lutte en question et face aux actions qu'elle a déjà menées. Et puis c'est évidemment anticiper un peu les risques d'interdiction et d'intimidation que la préfecture et les adversaires risquent de mettre en place pour dissuader les gens de participer, de venir et de mettre en avant leur détermination. Donc voilà, ça c'était un premier panel des différentes raisons qui ont bâti un peu la méthodologie de travail qu'on a mis en place pour essayer de faire en sorte d'organiser des actions dans cette composition large et hétérogène et avec avec des pratiques de lutte très différentes. Et à partir de là, je voulais parler de deux exemples qui sont... le premier, il pourra paraître comme une manière qui valide dans sa totalité la méthodologie dont je viens de vous parler, ou dans sa quasi-totalité. Et le deuxième, à l'inverse, il va venir pointer quelques limites, quoi. Quelques limites qui doivent nous poser des questions pour la suite. Donc ces deux événements auxquels ont participé les soulèvements de la Terre, le premier... Il date de mai 2023 et c'est une action qui a eu lieu, un week-end qui a eu lieu à côté de Rouen, à Léry, contre un projet autoroutier autour de la ville de Rouen, qui date déjà un peu. Mais donc là, on est dans le cadre d'une lutte qui a du temps devant elle, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une lutte qui existe déjà depuis quelques années, qui rassemble déjà une composition de force assez hétérogène. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé totalement l'étape de l'appel d'offres, donc on ne sait pas encore quel sera le concessionnaire du projet autoroutier. Et on est sur un calendrier où les travaux préliminaires sont prévus en 2025, le démarrage réel des travaux en 2027 pour un ouvrage réalisé en 2030. Donc vous voyez, ça laisse une temporalité de lutte assez longue. À partir de là, nous, on a été sollicités depuis Soulèvement la Terre par des gens qui sont actifs dans cette lutte et qui nous ont demandé d'intervenir et de les accompagner, quoi, d'une certaine manière, autour de l'organisation d'un événement pour commencer à cheminer vers des pratiques de lutte un peu plus offensives et un peu plus impactantes, en sachant que ça faisait débat parmi eux, quoi. Enfin, donc il fallait trouver des formes adaptées et adéquates pour que toutes les composantes de la lutte se sentent renforcées et en même temps que la lutte puisse commencer à exercer une menace un peu plus concrète sur les porteurs de projets. Donc c'est ça qui a été mis en travail pendant plusieurs mois avant que l'événement ait lieu, quoi. Et du coup, ça a pris trois formes, en l'occurrence, pendant le week-end. Une première journée, le samedi, avec un gros travail de préparation avec les Naturalistes des Terres, qui est une organisation nationale un peu récente de naturalistes qui cherche à mettre à profit leur savoir naturaliste dans des luttes de territoire. Donc une première journée où il y a eu une manifestation qui s'est divisée en trois cortèges dans la forêt de Bord, donc à côté de l'Héry, qui est une forêt menacée d'être rasée par l'autoroute, favoriser l'implantation ou le développement d'espèces protégées dans la forêt de Bord, avec l'idée derrière de pouvoir juridiquement attaquer le projet qui menace ces espèces. Donc ça a été un cortège qui faisait des nichoirs à muscardins dans une zone où les muscardins existent, un cortège qui creusait des mares pour les tritons crétés, et puis je vous passe tous les détails, mais en tout cas il y a eu quatre cortèges qui à chaque fois menaient des actions très familiales qu'on appelait des actions d'armement de la forêt. Voilà, ça c'était le premier geste. Le deuxième geste le dimanche matin, c'était presque un pied de nez à Darmanin, puisque 4 minutes. C'était un pied de nez à Darmanin puisque il a développé un certain tropisme autour de l'idée que à chaque fois que les soulèvements de la terre intervenaient, il allait y avoir une ZAD qui allait naître et que l'objectif fondamental de l'État, c'était d'empêcher la ZAD d'avoir lieu. Du coup, là, on a fait une ZAD pour enfants. C'est-à-dire qu'on a, on a construit des modules de jeu dans la forêt de Bord pour que les enfants du village qui pratiquent cette forêt, quoi, puissent venir jouer pendant le week-end, et en mettant au défi évidemment l'État de venir détruire des jeux pour enfants pour construire une autoroute, quoi. Et la troisième action qui a eu lieu le dimanche après-midi, c'était une action de blocage de l'autoroute existante, qui était aussi un petit palier à franchir pour eux, quoi, d'arriver, de rentrer sur une autoroute et de la bloquer pendant 20 minutes. Bref, toutes ces actions se sont déroulées comme prévu, du coup, et tout le monde est sorti avec un sentiment un peu de force et de puissance, et on peut considérer que les différents objectifs qui avaient été énoncés ont été atteints, et qu'il y avait un premier sentiment de victoire, quoi. Voilà. Donc effectivement, exemple qui marche, et ça me permet de rebondir sur un autre moment dont on a déjà pas mal parlé, qui est le 25 mars à Sainte-Soline, parce que c'est sans doute encore trop tôt pour en faire une analyse complète, mais en tout cas c'est sûr que ça a été un moment difficile et douloureux. Ça a aussi été un très beau moment avec beaucoup de monde et beaucoup de détermination, mais c'est un moment qui nous a coûté, quoi. Et donc là, Sainte-Soline, à la différence, on est dans une lutte qui est vieille de plus de 10 ans et qui, depuis septembre 2021, donc la lutte contre les méga-bassines, est engagée dans un bras de fer avec l'État, puisque c'est au moment où les chantiers de méga-bassines commencent effectivement avec la première construction de méga-bassine à Mosée-sur-Mignon, la CF-17, et où Bassine Non Merci décide d'engager le bras de fer et d'essayer d'empêcher le chantier d'avancer. Donc c'est le moment aussi où la Confédération paysanne et les soulèvements de la terre s'engagent un peu plus directement dans cette lutte. Et entre entre septembre 2021 et le 25 mars, il y a 4 événements qui participent à une montée en intensité de la mobilisation en nombre et aussi des gestes, des pratiques qui sont portées, des pratiques notamment de désarmement, parfois de confrontation un peu directe avec la police, et de blocage. Donc il y a quelque chose qui monte à intensité jusqu'au 25 mars où la lutte elle a pris une ampleur assez importante. La question de l'accaparement de l'eau et de la défense de l'eau et du partage de l'eau comme bien commun, elle est devenue assez centrale et majeure dans le pays, quoi. Enfin, en tout cas ça en parle et c'est plus une lutte qui est confidentielle. Et du coup il y a une attente considérable qui se crée autour de cette date, autour de cet événement du 25 mars. Et à ce moment-là, toute la méthodologie que j'ai évoquée au début, on se rend compte assez vite que Il y a quelque chose par la masse et par l'attente produite autour de cette date qui va nous échapper, quoi. Et donc, je ne sais pas si, par exemple, cette chose qui nous échappe, qui nous déborde, on pourrait parler d'aventurisme voué à l'échec, puisque ça a été mentionné au début. Mais en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que, d'une certaine manière, quand une lutte, elle prend une certaine importance et qui, d'une certaine manière, favorise le fait qu'elle soit débordée, quoi, que son cadre d'organisation soit débordé, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et il ne faut pas forcément le prendre comme un échec ou comme une limitation. Mais par contre, il faut réussir à en comprendre et à mesurer les conséquences. Sainte-Soline, ce qui s'est passé avant le 25 mars, c'est un énorme sentiment de puissance après les précédentes mobilisations. Le fait de savoir qu'on allait avoir une mobilisation extrêmement massive, le fait de savoir que ça allait nous dépasser, et c'est aussi la volonté de l'État de se venger de tous les échecs qu'il a subis précédemment, de tous les camouflets qu'il a subis précédemment et qui ont fait que cette lutte a pris autant d'importance. Je voulais, par rapport à cette idée de vengeance de l'État, je voulais juste faire un léger détour sur l'intervention que Michael et Olivier ont fait hier soir par rapport au coup d'État chilien en 73. Ce qu'ils ont dit, qu'une des leçons importantes à tirer de cet événement, c'était l'idée que l'État s'accommode d'un régime démocratique tant qu'il sert ses intérêts, qu'à partir du moment où il dessert ses intérêts, il franchit un cap, quoi, il passe à autre chose, et il passe à un degré de violence. Je pense que cette idée, elle est applicable à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, toute proportion gardée par rapport à l'expérience chilienne, évidemment, dans la mesure où il y a eu vraiment une opération de préméditation de l'État de la violence. Il y a eu des milliers de grenades jetées sur les gens, et surtout, il y a eu quelque chose qui, moi, me semble assez nouveau dans ce qu'on connaît en France, c'est qu'à un moment, ce à quoi on a été habitué quand les luttes, notamment les luttes écologistes, elles arrivent à un certain niveau d'intensité, Sivens, Rémi Fresque est mort, Notre-Dame-des-Landes, des dizaines de blessés, l'État, systématiquement, il remet en place les conditions du dialogue. Et il essaye, il se remet dans une position de désescalade de la violence et de rétablissement du dialogue. Ce qu'on a vu à Sainte-Soline, c'est d'une toute autre nature. C'est-à-dire que non seulement l'État a montré qu'il était prêt à tuer, il y a deux personnes qui sont restées entre la vie et la mort pendant plusieurs mois, il y a eu des dizaines de personnes mutilées, des centaines de personnes blessées, mais en plus, sa position n'a absolument pas bougé depuis ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Peut-être que c'est vite dit, mais pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau dans la manière dont on doit appréhender notre adversaire, et notamment dès lors qu'on arrive à construire un rapport de force qui met en crise ou en péril ses intérêts propres, quoi. Voilà. Du coup, juste pour conclure très brièvement et réénoncer un peu les quelques idées, nous, voilà, il n'y a pas de rapport moral, pas de rapport idéologique. Par contre, effectivement, il y a quand même ça a été dit déjà, mais un rapport éthique aux actions qu'on mène et aux moyens d'action qu'on essaye de développer. Et cette idée, voilà, qu'il faut, je pense, aujourd'hui arriver à se préparer à un niveau de violence de la part de l'État, notamment, et de nos adversaires, qui est en rupture avec l'idée de désescalade qui, longtemps, a fait la doctrine du maintien de l'ordre en France. Et que ça implique de vraiment réfléchir à comment on s'y prépare et comment on y fait face. Et enfin, pour revenir aussi un peu sur cette histoire de lien, de passerelle entre mouvement ouvrier, mouvement écolo, j'ai l'impression que les pratiques de lutte, ça peut, c'est aussi souvent un levier par lequel peuvent se rencontrer des milieux de lutte assez différents. Pour prendre un exemple très rapide, à un moment, dans une lutte, se pose la question de saboter une méga bassine, ou, par exemple, peut se poser la question, autour de la guerre de l'eau, de couper l'eau à des administrations qui font n'importe quoi. Et ben voilà, on a tout intérêt à aller rencontrer ceux qui détiennent les savoirs sur les réseaux d'eau, comment couper l'eau, tout ça. Et ceux qui détiennent les savoirs, c'est les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, c'est les ouvriers. Et donc ça fait évidemment des passerelles pratiques, mais qui ensuite ouvre des débats politiques, des discussions qui sont souvent passionnantes. Voilà. Et je vais m'arrêter là, et peut-être j'y reviendrai à la fin du débat. Je voulais juste évoquer un peu comment, dans le cadre du recours suspensif de la dissolution, il y a une question juridique qui s'est posée et sur laquelle on a obtenu une première victoire avec la suspension de la dissolution, autour de la question de la violence contre les biens. Voilà, j'en dis pas plus, mais peut-être je pense que c'est intéressant à partager parce que ça indique des choses pour la suite. Merci.
Merci beaucoup, Baptiste. Je suis trop près. Oui, je suis trop près. Camarade Jean-Yves, tu voulais rajouter un petit mot, et comme tu n'avais pas utilisé tout ton temps, on te l'accorde avec grand plaisir.
C'est ça le métier, c'est de ne pas avoir utilisé tout mon temps à l'introduction. Non, c'était juste pour préciser, parce que je ne voudrais pas avoir été mal compris par Baptiste ni par la salle. Quand on décide de passer militairement, on décide de passer, on s'organise pour. Et moi, à Sainte-Soline, j'ai fait les deux dernières Sainte-Soline. La première était assez bien organisée de ce point de vue, la deuxième l'était moins. Et moi, ce que je pense, c'est qu'à Sainte-Soline, il n'y a pas eu assez de violence. Voilà, parce qu'elle était mal organisée. Qu'on se comprenne bien sur ce que je voulais dire sur l'aventurisme. En l'occurrence, il y avait un objectif, on avait les effectifs pour passer. Ce qui a manqué, c'est une organisation, des généraux, des capitaines, des sous-lieutenants.
C'est plus clair.
Merci pour cette précision. Je propose donc 10 minutes, camarades, 10 minutes, pas une de plus. On revient dans la salle et on débat. À tout de suite.